Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, votre émission consacrée aux talents français. Avant toute chose, je vous souhaite à tous un bon 1er mai. Profitez bien de ce dimanche. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux matières végétales et notamment le lin qui est de retour avec les beaux jours. Cette matière est souvent conseillée quand il fait chaud pour son excellent pouvoir isolant et thermorégulateur. J'en profite pour rappeler que la France est le premier producteur de lin au monde. Eh bien nous allons être avec Stéphanie qui s'est lancée dans la cosmétique à partir de lin. Et elle est issue d'une famille de liniculteurs, donc autant vous dire que cette fibre végétale, elle la connaît par cœur.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Stéphanie Gastaldin.
Bonjour Nathalie.
Vous avez créé la marque Linae, donc c'est une marque de cosmétiques à partir de lin, la graine de lin. Alors finalement, j'ai envie de vous dire, le lin, c'est aussi bien. Il n'y a que des bonnes choses dans le lin. La graine de lin qu'on peut déguster au petit matin, la cosmétique, les vêtements en lin.
Oui, effectivement, moi, le lin m'a toujours inspirée. Hein. Le lin, ça me vient de mon histoire de famille, puisque je suis issue d'une famille de liniculteurs en Normandie. Donc, depuis l'enfance, j'ai toujours eu du lin autour de moi, comme ce soit dans le domaine de l'habillement, que ce soit la décoration, et aussi au petit déjeuner, puisque je voyais mes parents prendre leurs graines de lin, et effectivement, pour les bienfaits que ça apporte.
Le champ de lin en fleurs, vous avez pu en profiter
exactement,
aussi de ça. C'est magnifique et éphémère.
Spectacle en juin, effectivement. Donc encore un petit peu de patience pour découvrir ce magnifique spectacle en Normandie, notamment, hein, avoir ce champ de lin tout bleu. Alors, si en plus vous avez une vue mer derrière, c'est absolument magnifique.
Donc ce lin fait partie de votre histoire. Vous
oui,
avez grandi avec. Mais par contre, vous n'avez pas choisi de rester dans la lignée de l'iniculteur, de la famille. Vous avez décidé de l'utiliser différemment.
C'est vrai, j'ai fait ce choix après mes études en Normandie, après avoir fait une école de commerce. J'ai fait un stage qui a été pour moi le déclic, c'était un stage dans la cosmétique. Et tout de suite, c'était vraiment vers la cosmétique que je voulais travailler tendre. Et j'ai travaillé 10 ans au développement produit dans la cosmétique. Et en fait, l'envie d'entreprendre est arrivée très rapidement. Et je cherchais un élément remarquable, un élément fil rouge pour incarner le produit en France. Et donc forcément, je l'avais sous les yeux, c'était le lin.
La culture locale de la
Exactement.
Région. Mais alors, comment vous avez découvert les bienfaits? Parce que on le sait bien, les graines de lin, bon ça on le sait. Vous avez fait quoi? Des recherches autour de ce lin
oui.
pour voir comment
oui.
on pouvait l'utiliser en cosmétique?
Tout à fait. Il y avait déjà quand même pas mal de bibliographies hein, sur l'huile de lin, parce que même si c'est pas forcément, je veux dire, une matière première très à la mode, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mode hein, dans la cosmétique sur les ingrédients. Moi, je m'y suis intéressée déjà par ses propriétés alimentaires qu'on consomme, notamment grâce à la haute teneur en acides gras essentiels. Donc, je me suis dit. Bah, par rapport à cet apport au niveau de la santé par voie orale, ça peut forcément, j'étais convaincue que ça pouvait apporter quelque chose sur la peau. Et c'est vrai que le lin quand même était déjà utilisé, alors de manière assez anecdotique, et pas forcément en fil rouge dans tous les cosmétiques, mais avait des bienfaits avec cette fameuse graine.
Mais alors du coup, quelle gamme de produits vous avez développé ?
Donc j'ai créé Linae, donc c'est fin 2019. Linae, c'est la première marque de soins donc aux extraits de lin bio, une marque de soins naturels certifiée Origine France garantie. Et j'avais cette volonté au moment du lancement d'avoir des soins visage tout type de peau. Donc ce sont vraiment des produits qui vont de la préparation de peau, donc huile démaquillante, une eau qui va défatiguer et un gommage, suivi d'une première routine, donc encore une fois, tout type de peau sur l'hydratation et la protection avec un sérum, un fluide de jour et une crème de nuit. Et pour justement accompagner tous ces soins, j'ai également développé des carrés démaquillants lavables avec bien évidemment une face en lin bio.
Bien évidemment, c'est vrai. Mais alors, quels sont les avantages de ce lin pour la peau? Qu'est-ce qu'il y a de plus
oui.
que les autres produits que l'on pourrait mettre, les autres matières végétales?
Alors, c'est vraiment la graine de lin, c'est un ingrédient très intéressant parce que ça va être un ingrédient transversal. Il va, donc, dans la graine, ce qu'on va avoir, et c'est aussi notre force avec l'INAE, c'est que nous sélectionnons nous-mêmes nos graines de lin à chaque fois que nous avons un besoin de production. Nous sélectionnons nos graines. Nous avons une coopérative partenaire, donc bio. Nous sélectionnons les graines avec mon père. Ensuite, nous suivons le process de pression à froid et vous allez obtenir une huile vraiment exceptionnelle, riche en oméga 3. Et cette huile sur la peau va avoir vraiment des propriétés à la fois nourrissantes, apaisantes, régénérantes, donc vraiment très intéressantes, peu importe le type de peau finalement, vraiment qu'on va associer à d'autres matières premières en fonction des revendications du produit. Et également dans la graine, vous allez retrouver un gel. Donc ce qu'on appelle le mucilage, donc c'est une texture vraiment gel qui va être très intéressante pour la peau et pour les cheveux. C'est très très connu aussi pour les cheveux. Donc cette substance vraiment gel qu'on peut qualifier un peu comme un aloe vera finalement va éviter l'évaporation de l'eau, donc avoir des propriétés hydratantes. Donc encore une fois, l'hydratation, c'est une action transversale qu'on va avoir besoin, peu importe le type de peau. Donc c'est là où je me suis dit, la graine de lin, vraiment, c'est un actif fil rouge très intéressant qu'on va venir associer à d'autres matières premières en fonction des gammes. Donc c'est vraiment l'actif fil rouge par excellence dans les soins.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une maîtrise complète du processus de fabrication, puisque la matière première, vous la choisissez,
oui.
Et toute l'évolution, toute la transformation, elle se fait en fait sur les terres normandes.
Alors du coup, vraiment l'inspiration, c'est la Normandie. Vous avez tout à fait raison. Là où on va prendre nos graines, ça va être entre la Normandie et l'Eure-et-Loire, en fonction des années, puisque la culture de lin, il y a une rotation. On ne peut pas cultiver le lin tous les ans sur la même terre. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec cette coopérative partenaire, mais ça nous permet vraiment d'avoir la maîtrise, garantir cette traçabilité, cette qualité, et de faire tous les tests derrière sur notre huile de lin pour vérifier vraiment la haute teneur en acides gras essentiels.
Ouais. Du coup, là, la prochaine étape, c'est quoi exactement? C'est de continuer justement à développer, faire connaître en fait la marque, donner envie aux gens justement de, j'allais dire un peu comme dans le textile, montrer à quel point le lin a peut-être plus d'avantages que le coton. Et là, c'est pareil en cosmétique, faire découvrir justement toutes ces richesses cachées du lin.
Oui, c'est vrai que c'est un message fort que l'on veut faire passer. Déjà, l'INAE, c'est vraiment un hommage aux produits en France. C'est pour ça que tous nos soins sont certifiés Origine France garantie. Et nous sommes convaincus, vraiment tous les acteurs de la filière lin, que le lin, c'est vraiment la culture d'avenir. Pour vraiment toutes les raisons qu'on peut évoquer. Déjà, effectivement, la France, premier producteur mondial. Donc, on doit le valoriser. Encore pas assez de gens ne le savent. Donc, il faut vraiment en parler. À côté de ça, eh bien, avec le lin, en fait, tout s'utilise. Donc, cette notion de zéro déchet, elle est très importante. Et nous utilisons le lin dans tous ses états. Donc, vraiment une raison complémentaire, supplémentaire d'utiliser le lin dans les cosmétiques. Et comme je vous le disais, en plus, on peut vraiment utiliser aussi la fibre pour développer des accessoires beauté, comme des carrés, des maquillons lavables et bien d'autres choses.
Vous êtes une belle ambassadrice du lin. On voit que vous avez grandi dedans aussi. Vous connaissez vraiment par cœur cette fibre végétale.
Ah ben c'est vraiment une histoire de famille. C'est vraiment une passion transmise par mon père. Et je trouve que vraiment, cette culture, elle est extraordinaire avec toute la possibilité, toutes les possibilités que l'on peut faire avec cette plante assez incroyable. Donc vraiment, j'ai envie de la mettre à l'honneur et de l'utiliser quoi qu'il en soit. Peu importe les développements, il y aura toujours du lin dans les produits.
Et vous avez bien raison de rappeler que vous êtes labellisée Origine France garantie, parce que là encore, c'est vrai qu'on se bat contre le French washing. Donc c'est important de rappeler que pour être sûr que ce soit vraiment fait en France, il y a des labels qui sont là.
Exactement.
Le label entreprise du patrimoine vivant qui labellise l'entreprise, le label Origine France garantie qui labellise le produit. Et vous le disiez à l'instant, votre marque de soins naturels aux extraits de lin bio est certifiée donc Origine France garantie. Dernière petite question, votre papa, comment il voit votre choix, votre orientation? Il est content d'avoir quand même ce lien avec vous, avec le lin?
Oui, exactement. C'est vrai que moi, je n'ai pas repris l'entreprise familiale. C'est vrai que j'ai toujours suivi effectivement son parcours d'entrepreneur. Mais c'est vrai que moi, je me destine à la cosmétique. C'est une véritable passion. Et le fait justement de poursuivre cette histoire du lin, mais sous une autre voie, lui, il est tout aussi passionné, parce qu'il découvre aussi mon univers. Et de voir qu'on peut faire tellement de choses avec le lin au service de la cosmétique, qu'en fait, c'est juste, on ouvre l'éventail. Et c'est ça qui est formidable. C'est vraiment qu'on n'en est qu'au début. Mais on sait qu'aussi, on peut faire des choses avec le lin en matériaux composites. Donc on peut travailler beaucoup, beaucoup
de sujets avec la fibre,
avec le lin.
effectivement,
oui,
du lin.
Avec la fibre.
Stéphanie,
voilà, faut vraiment pas oublier
Castalda,
la fibre.
La marque Linae, elle est récente, hein, vous l'avez créée en 2019, c'est bien ça?
Tout à fait, je l'ai lancé fin 2019, voilà, on va dire un lancement en septembre, et puis vraiment une commercialisation qui a démarré après en 2020, donc avec un contexte un petit peu particulier, on va dire, mais effectivement un lancement fin 2019.
Vous n'avez pas aidé, effectivement, c'est vrai. Mais alors, vous n'avez pas été aidé avec, c'est vrai, c'est ce Covid, hein, pendant 2 ans, qui malheureusement a immobilisé tout le pays. Est-ce qu'il y a d'autres... comment ça se fait que ce lin ne soit pas davantage utilisé dans la cosmétique?
Alors, je pense qu'il y a vraiment des modes sur les ingrédients au niveau de la cosmétique. Il y a vraiment des vagues. On voit, il y a des ingrédients qui viennent, qui repartent. Et c'est vrai que le lin est un peu passé sous les radars. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on ne soit pas forcément tant intéressé que cela. Mais c'est en train de changer. Effectivement, je pense qu'il y a une volonté de trouver de plus en plus de matières premières en France. Et donc, le lin est vraiment davantage mis à l'honneur, je trouve, depuis maintenant un an. On voit de plus en plus de sociétés qui incorporent maintenant du lin dans les produits cosmétiques par rapport à tous les bienfaits que l'on a vus ensemble.
Cette fibre de lin, elle se concentre majoritairement sur les côtes néerlandaises, belges et surtout françaises, entre la Normandie et les Hauts-de-France. Est-ce qu'il existe justement, j'imagine qu'avant de se lancer, on fait une sorte d'état des lieux, une étude de marché. Est-ce que par exemple aux Pays-Bas ou en Belgique, le lin est davantage utilisé dans la cosmétique? Est-ce que vous avez des concurrents européens, en d'autres termes?
J'ai pas vraiment identifié de marque qui utilise le lin comme en fil rouge, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est vrai que le lin a une très bonne image. D'ailleurs, on le voit par rapport au contact que l'on peut avoir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Cela dit, je n'ai pas identifié de marque qui mette à l'honneur comme ça le lin. Donc, je n'ai pas véritablement de concurrent direct qui a ce fil rouge et qui incarne autant. Encore une fois, on voit que maintenant, il y a un intérêt pour les matières premières françaises. Et donc, on s'intéresse de plus en plus à la graine de lin.
Surtout quand on sait que la culture du lin consomme peu d'eau, quasiment pas de pesticides. Donc, la fibre en elle-même, elle est déjà quasiment bio. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai atout, finalement.
C'est un vrai atout. C'est vraiment aussi la force de cette culture, que ce soit pour utiliser derrière la fibre, comme vous parliez, on parle d'irrigation. Bon, ben là, effectivement, le lin ne nécessite pas d'irrigation, donc c'est un vrai atout. Derrière, ça apporte tellement de propriétés avec la fibre longue, la fibre courte, la graine, tout s'utilise effectivement dans la plante. Donc, il y a tout intérêt à aller vers ce genre de culture, tout à fait.
Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué, une fois qu'on a l'idée? Et qu'on veut se lancer de la cosmétique, parce que vous aviez cette formation-là aussi, hein, cette expérience-là. Quel a été, j'allais dire, le principal obstacle pour vous lancer?
Alors, c'est vrai que venant du monde de la cosmétique, les étapes de développement, je les avais bien en tête. Et c'est très important vraiment de respecter, hein, quand on crée une marque de soins de A à Z, vraiment un développement qui nécessite quasiment 2 ans. Entre le moment où on a l'idée et le moment où le produit arrive sur le marché. Hein, c'est vrai que ça nécessite un certain nombre d'étapes obligatoires. Et c'est vrai que mon challenge, ça a été vraiment de lancer une marque à la fois naturelle et surtout qui valorise le produit en France. Donc, aller identifier l'ensemble des partenaires qui partagent cette même philosophie, les mêmes engagements, et pouvoir identifier ces partenaires français. Donc, ça a été vraiment la course au salon, aller pouvoir les identifier, aller pouvoir trouver les emballages également, puisque ça, c'est un vrai casse-tête, des emballages en cosmétique. Quand on veut vraiment trouver des emballages qui soient recyclables, qui limitent les empreintes carbone, qu'on puisse les fabriquer en France. Donc, c'est vraiment identifier tout ce réseau de partenaires, de matières premières et d'emballages qui permettent de donner vie demain à sa marque de cosmétique. Et donc, une fois que j'ai pu justement les identifier, bon, bah, ça a été tout un travail de formulation, hein, et de test pour pouvoir proposer aujourd'hui ces 6 soins.
Merci Stéphanie Gastaldin, fondatrice de Linae. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotter.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté...
Sud Radio, c'est ça la France.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente...
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission qui met en avant les talents français. Et il est temps d'aller se balader maintenant avec Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio C'est ça la France avec Thibaut le French Trotter.
Et Thibaut est toujours en visite dans le sud de la France. Il a profité d'une escale dans le village du Pradé à côté de Toulon pour s'intéresser à l'élevage des escargots.
Et oui Nathalie, j'ai la chance de continuer cette balade dans le Var. Et je suis aujourd'hui à la ferme La Dominette, l'escargot La Dominette, où on élève des petits gris et des gros gris. Et je suis en compagnie de Christine, qui est hélicicultrice. Et je vais tout de suite vous poser la question, d'où ça vient hélicicultrice?
Hélix, en fait, c'est la spirale de l'escargot. Donc ça vient de là, héliciculture, donc c'est l'élevage d'escargot.
Et vous êtes combien en France?
Donc en France, nous sommes à peu près 350-400, sur tout le territoire français. Donc on n'est pas nombreux. La production française, donc d'élevage d'escargots produit simplement 5% de la demande française. Tout le reste, c'est de l'importation.
Et si on allait voir ce parc au rythme de l'escargot? On parle de parc?
Tout à fait, c'est des enclos d'élevage en fait, tout à fait, des parcs d'élevage.
Est-ce qu'on peut le décrire pour les auditeurs? Là, je vois des planches, je vois de la luzerne.
Alors en fait, il faut créer déjà donc, un enclos, hein, un enclos pour éviter ce qu'on appelle les évasions dans notre élevage, évidemment.
Les escargots s'évadent.
Exactement.
À leur rythme.
Tout à fait, donc le but c'est de maintenir et de condenser les escargots dans un endroit clos, en sachant que par parc, il y en a entre 30 et 40 000. Donc ça ferait désordre si les voisins se retrouvaient avec toutes ces quantités-là, en sachant que moi j'ai à peu près 400 000 escargots sur mon élevage, ce qui donne à peu près une exploitation de 2000 m² de parc d'élevage. J'ai un système de filets, en fait, on appelle ça des filets italiens, évite à l'escargot de s'évader, de pouvoir monter plus haut. Et j'ai des allées, évidemment, aussi de végétation. Donc, chez moi, donc, je sème de la luzerne et je fais un système, évidemment, de ce qu'on appelle toujours en héliciculture, hein, des surfaces de collage. Donc, j'utilise des planches non traitées, très importantes, qui sont mises de manière à ce que les escargots puissent se glisser dessous et être protégés par cette végétation, hein, qui va leur servir, évidemment, d'habitat pour évidemment se protéger du soleil, du vent, des prédateurs en journée et sortir à la nuit tombée, chercher évidemment l'humidité, hein, puisqu'on les asperce le soir. À la nuit, plusieurs fois dans la nuit, ça se déclenche, mais légèrement, il n'a pas besoin de tant d'eau que ça, pour justement l'inciter à sortir et à aller se nourrir, puisque ça reste de l'élevage. Donc à peu près en 6 mois, un escargot est bon et mature et commercialisable en fait.
Donc après ce que vous me dites, l'escargot se nourrit la nuit et dort le jour?
Exactement, tout à fait. Il n'y a plus de prédateurs, évidemment c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas les rayons du soleil qui peuvent les gêner. Ils sentent déjà d'une la fraîcheur et le fait de les réveiller, ça permet évidemment de les solliciter pour aller manger la végétation et en plus l'aliment qu'on peut leur distribuer en plus.
Et également, les escargots, bah, ils hibernent, ils passent leur hiver à dormir.
Alors les escargots en élevage un peu particulier, hein, puisqu'on les lâche simplement après les Saintes Glaces, donc souvent au mois de mai, hein, mi-mai, et on les ramasse justement pour les cuisiner. Alors essentiellement, il y a une grosse part de l'activité qui se fait au moment des fêtes de fin d'année. Donc, on les ramasse maximum à l'automne. Les plus petits peuvent être gardés et conservés donc en chambre froide positive, hein, je m'entends, pas, on ne va pas les surgeler évidemment, et les relâcher comme je fais moi sur l'exploitation, je les relâche un petit peu plus précocement. Donc, souvent, voilà, début avril, on peut relâcher ce qu'on appelle les fonds de parc. C'est ce qui permet justement de repeupler certains parcs et d'avoir une première récolte sans attendre la fin de l'été.
Vous parliez des préparations de fin d'année, justement, qu'est-ce que vous faites à partir de l'escargot? Parlez-nous de ces bonnes choses.
Alors moi, évidemment, vous l'avez compris, j'aime ce que je fais. Il y a beaucoup de préparations à faire au niveau des escargots. Alors je suis provençale, donc je vais d'abord parler pour ma Provence. On a une spécialité qui s'appelle donc les escargots. Donc ce sont des petits gris à la sucarelle. Donc c'est une sauce tomate rouge, une sauce tomate cuisinée. Donc avec des escargots qui sont petits en calibre, qui ne sont pas décoquillés, courbouillonnés, oui. Et que l'on insère dans une sauce tomate. Le plus connu, évidemment, ça parle à tout le monde, ce sont les escargots farcis au beurre d'ail, hein. Dans des coquilles. Il existe aussi dans la même variante ce qu'on appelle des croustilles, donc on en entend de plus en plus parler. Ça va être un petit biscuit qui a la forme d'une coquille d'escargot, mais ça va être une pâte plus croustillante. C'est vraiment sympa, très sympa pour l'apéro, hein, puisque c'est une bouchée. Oh, qu'est-ce que je fais encore
Vous nous mettez l'eau à la bouche. Tous ces produits sont en vente ici à la ferme.
Tout à fait, je fais essentiellement de la vente directe, tout à fait. Et on peut venir aussi en été visiter et manger sur place. Voilà.
Et je voulais préciser une chose, les sonnailles qu'on entend sont évidemment pas les escargots, mais les moutons, l'élevage qui jouxte l'exploitation de Christine. Alors la visite, vous êtes vous ouvrez aux visiteurs?
Alors tout à fait. Bon, c'est vrai que j'essaye de condenser. Alors d'une, c'est vrai que comme il n'y a pas des escargots en parc toute l'année, je fais un condensé donc en juillet août avant la récolte, puisque les personnes quand elles viennent sur une exploitation, elles veulent voir les animaux en activité, et donc juste avant la récolte, c'est là que l'escargot est le plus beau à voir évidemment. Donc tous les étés, le jeudi et le vendredi soir, nous organisons sur réservation la nuit de l'escargot où les personnes peuvent venir visiter et manger aussi sur place. Donc une assiette d'escargot, voilà, pour moins pour 18 euros par personne, on peut venir se régaler et passer un bon moment, deux heures en notre compagnie sur l'exploitation.
Il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur la reproduction de l'escargot. Alors vous allez tout nous expliquer. C'est le moment que j'aimais de vous demander. Alors est-ce que l'escargot, comment il fait pour se reproduire?
C'est très très intime comme question. Alors l'escargot arrive à l'été, quand il commence vraiment à faire chaud, il craint un peu sur sa survie, donc il se dit, bon ben là il va falloir que je trouve un copain, une copine, pour pouvoir évidemment me reproduire. Donc il faut savoir que l'escargot s'accouple logiquement qu'une fois par an, et suite à cet accouplement, dans les 15 jours, 3 semaines, donc en fonction de la météo, en fonction de plein de paramètres, l'escargot va devoir pondre, parce qu'il fait évidemment des œufs. Hein, qui lui sortent donc au niveau de la tête. Donc il va enterrer sa tête dans le sol et ils vont pondre à peu près, hein, grosso modo, une centaine d'œufs chacun. Donc ça fait quand même 200 œufs pour un accouplement.
L'escargot est hermaphrodite?
Alors l'escargot tout à fait hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il est et garçon et fille. Quand il s'accouple, c'est souvent un échange de spermatozoïdes. Et quand l'escargot, donc dans les 15 jours, 3 semaines suite à l'accouplement, va pondre, ça va être donc les deux vont se transformer en filles, et les deux vont pondre.
Écoutez, je vous remercie infiniment, Christine, pour toutes ces précisions sur l'escargot. Et vous nous avez donné envie de visiter la ferme La Dominette. Quant à moi, je vais continuer ma petite balade dans le Var. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre découverte.
Merci beaucoup, Thibault. On viendra visiter cette exploitation de Christine Wattelier et lissicultrice, j'espère que je l'ai bien prononcé, au domaine Escargot La Dominette. Et ça sera aussi l'occasion de déguster tous ces bons produits à base d'escargot. Toutes les informations sur le site escargot-ladominette.fr.
Sud Radio C'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
On arrive à la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous, là encore, un très bon 1er mai. Profitez bien de ce beau dimanche. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.